RFI 22h à Paris, 21h en temps universel.
Christophe Paget.
Bonsoir. À la une de ce journal, les bourses mondiales en baisse. Le président américain Donald Trump annonce qu'à partir du 2 avril, il impose 25% de droits de douane supplémentaires aux véhicules qui ne sont pas fabriqués aux États-Unis. Nous ferons le tour des réactions internationales au début de ce journal. Réunion ce jeudi des alliés européens de l'Ukraine, c'était à Paris. Unanimité pour s'opposer à une levée des sanctions imposées à la Russie, mais le président ukrainien Volodymyr Zelensky regrette qu'il y ait toujours beaucoup de questions et peu de réponses sur l'éventuel déploiement d'un contingent européen. Et puis à Londres, fin de la commission d'enquête Cranston, qui doit faire la lumière sur le pire naufrage de migrants survenu dans la Manche. En novembre 2021, au moins 27 personnes avaient trouvé la mort à quelques kilomètres des côtes britanniques, alors que les secours avaient été alertés. Les bourses mondiales dévissent après la décision du président américain d'imposer 25% de droits de douane supplémentaires sur toutes les voitures qui ne sont pas fabriquées aux États-Unis à partir du 2 avril. En Europe, la majorité des bourses sont ainsi reculées, avec par exemple moins 0,51% à Paris, où le président Emmanuel Macron a espéré que Donald Trump revienne sur sa décision, parlant d'une forme de paradoxe à voir les principaux alliés des États-Unis être les premiers taxés. Et évidemment, ce n'est pas la seule réaction des partenaires commerciaux des Américains. Oriane Verdier.
Le ministre français de l'économie a appelé à une riposte européenne. Berlin souhaite qu'elle soit ferme alors que l'Italie invite à ne pas céder à des réactions instinctives. Londres affirme de son côté négocier avec Washington. Toutes les options sont sur la table, prévient le Japon. De l'autre côté du globe, sur le continent américain, le Brésil dit ne pas pouvoir rester sans rien faire. Au Canada, le Premier ministre dénonce une attaque directe. Donald Trump a menacé l'Union européenne et le Canada de droits de douane encore alourdis s'ils coordonnaient leur riposte. La mesure devrait entrer en vigueur dès le 2 avril. Le but, selon Donald Trump, est de faire payer les pays qui font des affaires aux États-Unis et prennent la richesse du pays. Au-delà des tensions diplomatiques, c'est également un bouleversement pour l'industrie automobile. Un bouleversement qui touchera aussi l'industrie nationale américaine, prévient la directrice générale de l'Association des constructeurs européens. Les constructeurs américains possèdent en effet des usines au Mexique et au Canada. Ces derniers ont d'ailleurs déclaré qu'il était crucial que cela n'augmente pas les prix pour les consommateurs.
Oriane Verdier, le ton monte entre Washington et Caracas à propos du Guyana, ce petit pays anglophone d'Amérique du Sud, voisin du Venezuela, pays aux réserves pétrolières immenses et qui s'inquiète des revendications de Caracas sur une partie de son territoire, l'Essequibo, riche en pétrole justement et qui, en plus, couvre les deux tiers du pays. Ce jeudi, le secrétaire d'État américain Marco Rubio était au Guyana. Il a averti que toute attaque se terminerait mal, d'autant que le groupe pétrolier américain ExxonMobil est présent dans le pays. Caracas a aussitôt réagi, parlant de fanfaronnade. États-Unis toujours, l'État de Floride examine actuellement un projet de loi, et pas des moindres, puisqu'il assouplirait les conditions dans lesquelles les mineurs pourraient travailler. L'objectif, c'est de compenser la perte de main-d'œuvre liée à l'expulsion de migrants. Car si l'État est connu pour sa législation très coercitive envers les migrants illégaux, cette législation pose un autre problème, les entreprises manquent de travailleurs peu qualifiés. Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, pense donc avoir trouvé la solution. Anne Verdaguet.
Le texte vise à autoriser le travail de nuit dès 14 ans si ces jeunes sont scolarisés à la maison ou suivent des cours à distance. La loi actuelle leur interdit de travailler avant 6h30 et après 23h. Pour les jeunes de 16 et 17 ans, le travail de nuit serait rendu possible, même les jours de cours, et la pause déjeuner ne serait plus obligatoire. Pour le gouverneur de Floride, cela ne pose aucun problème moral, bien au contraire. C'était comme ça quand j'étais jeune et nous n'avons pas besoin de faire venir des étrangers pour un travail qui peut être fait par des lycéens, a-t-il affirmé. Pour les spécialistes de l'enfance, cette loi comporte pourtant un certain nombre de risques, et notamment pour les jeunes les plus démunis qui auront du mal à refuser des conditions de travail difficiles et seront moins protégés. Ironiquement, ce sont aussi les jeunes migrants illégaux qui sont le plus à même d'accepter ce type d'horaire et de contraintes. En Floride, certaines entreprises n'ont pas attendu cette loi. Le nombre d'infractions au droit du travail des enfants a triplé entre 2019 et 2022.
Ce jeudi, les alliés européens de l'Ukraine étaient réunis à Paris. Tout le monde est d'accord pour s'opposer à une levée des sanctions imposées à la Russie. Selon le Premier ministre britannique Keir Starmer, il s'agirait même de les renforcer. Pour les garanties de sécurité, c'est plus compliqué. Le Royaume-Uni se dit prêt, avec la France, à déployer des troupes en Ukraine en tant que garantie de sécurité. Emmanuel Macron a d'ailleurs annoncé qu'une mission franco-britannique doit se rendre dans les prochains jours en Ukraine. Mais le président français a aussi reconnu que la proposition franco-britannique de déployer des contingents en Ukraine ne fait pas l'unanimité. Et à l'issue du sommet, le président Volodymyr Zelensky a regretté qu'il y ait toujours beaucoup de questions et peu de réponses sur l'éventuel déploiement d'un contingent européen. En Turquie, le pouvoir cible les médias d'opposition. Le président Erdogan fait face à une fronde d'une ampleur inédite depuis 12 ans, après l'arrestation de son principal opposant et maire d'Istanbul. Ce jeudi, le Haut Conseil turc de l'audiovisuel a condamné une chaîne critique du pouvoir à 10 jours d'interruption de programme. En réponse, le principal parti d'opposition a appelé à protester ce soir devant le siège du Haut Conseil. Les autorités ont également expulsé un journaliste de la BBC qui couvrait les manifestations. Elle l'accuse de représenter une menace pour l'ordre public, une expulsion dénoncée par la BBC. RFI 5h06 à Pékin. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, était ce jeudi en visite à Pékin et il a plaidé pour un partenariat franco-chinois puissant face aux crises dans le monde, tout en avertissant que l'Europe défendrait ses intérêts et ses valeurs. Jean-Noël Barrot.
Le nombre et l'intensité des conflits, tout comme l'affaiblissement de nos institutions multilatérales, menacent la stabilité du monde. Nous en sommes convenus, nos deux pays, membres permanents du Conseil de sécurité, ont la responsabilité toute particulière de trouver ensemble des réponses à apporter à la communauté internationale en dépassant les clivages qui opposeraient les pays occidentaux aux autres ou les pays développés aux pays en développement. La France et la Chine doivent en premier lieu se coordonner pour favoriser une paix juste et durable en Ukraine. Pour mettre un terme à cette guerre d'agression russe, la participation de l'Ukraine et de l'Europe au pourparlers de paix est indispensable. La Chine a aussi un rôle à jouer pour convaincre la Russie de venir s'asseoir à la table des négociations avec des propositions sérieuses et de bonne foi.
Jean-Noël Barrot, des propos cueillis par Cléa Broderst. En France, Nicolas Sarkozy dénonce l'outrance de la peine réclamée. Ce jeudi, dans le procès des soupçons de financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007, le parquet financier a requis 7 ans de prison et 300 000 euros d'amende contre l'ex-président. Également 5 années d'inéligibilité. Le procureur a dénoncé dans son réquisitoire une quête effrénée de financement pour satisfaire une ambition politique dévorante. Le procès de Gérard Depardieu pour agression sexuelle présumée. Le procureur a demandé ce jeudi 18 mois de prison avec sursis assorti d'une période probatoire de 3 ans. Il s'agit matériellement et intentionnellement d'agression sexuelle, a déclaré le magistrat, qui a rappelé que les plaignantes étaient des femmes en situation d'infériorité sociale par rapport à la célébrité de l'agresseur. Le tribunal correctionnel de Paris rendra son jugement le 13 mai. 5 ans de prison ferme, c'est la peine dont a écopé ce jeudi l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, 80 ans, emprisonné en Algérie depuis novembre dernier. Le président français Emmanuel Macron a dit souhaiter vivement qu'il puisse redevenir un homme libre et a dit compter sur le bon sens et l'humanité des autorités algériennes. On se dirige maintenant vers Londres où la commission d'enquête Cranston, qui doit faire la lumière sur le pire naufrage de migrants survenu dans la Manche, a pris fin ce jeudi. Au moins 27 personnes avaient trouvé la mort le 24 novembre 2021, à quelques kilomètres des côtes britanniques, et ce alors que les secours avaient été alertés. Parmi les personnes auditionnées, un exilé rescapé du naufrage et des gardes-côtes anglais. Ces deux dernières journées d'audition étaient dédiées aux familles des victimes. Amélie Beaucourt.
Quatre sourires apparaissent sur les écrans de la salle d'audience. Kadzal, 46 ans, pose avec sa fille aînée, Adia, 22 ans, son fils Moubin, 16 ans, et la petite dernière, Asti, 7 ans, dont le visage espiègle se faufile sous leurs bras enlacés. Cette photo, c'est Rosgar qui l'a envoyé du Kurdistan, où il a vu sa famille pour la dernière fois en août 2021.
La dernière conversation que j'ai eue, c'était avec ma fille Adia. Il était 22h ici, au Kurdistan. Elle m'a appelé dans le bateau pour me dire qu'il venait de se mettre en route. Elle m'a dit de prier pour eux.
Le père de famille apprend le naufrage au journal télévisé le lendemain. Les autorités anglaises ne le contacteront que plusieurs semaines plus tard.
Ils m'ont demandé mon ADN pour pouvoir identifier les corps retrouvés. C'est comme ça que j'ai su. Ils me manquent tous les jours. Pendant 22 ans, j'ai veillé sur eux. Je me réveillais la nuit pour les border avec leurs couvertures. Tout ce que je voulais, c'est qu'ils soient en sécurité.
Le nom de son fils, Moubin, est revenu plusieurs fois pendant ce mois d'audience de la commission d'enquête Cranston. Il a passé 21 minutes au téléphone avec les gardes-côtes anglais pour les alerter. Sa maman, ses deux sœurs et lui figurent parmi les 27 morts du naufrage. Deux personnes ont survécu et trois sont toujours portées disparues.
Un reportage d'Amélie Beaucourt, RFI, 21h10 à Londres.